Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette troisième leçon qui débute par cette magnifique photo de Elizabeth Miller, Lee Miller. Je vous ai montré déjà à plusieurs reprises d'ailleurs. Prise à Paris vers 1930, et que la situation n'a pas beaucoup changé, qui vous montre deux choses. D'abord que la longueur de la queue de Sarah peut être légèrement différente, et puis ensuite qu'il l'utilise vraisemblablement comme un système de balancier. Et je commence par cette observation, parce que c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans la deuxième partie, en discutant de la deuxième étude que je voulais vous présenter. Mais d'abord, laissez-moi vous dire rapidement de quoi nous allons parler. Donc, nous allons terminer de discuter de cette publication de ce groupe de New York sur l'implication possible du gène TBXT dans la disparition de la queue chez les grands singes et chez les humains. Et puis, nous allons commencer, peut-être même terminer, une analyse d'une autre publication, alors qui, vous le verrez, touche bien sûr au même sujet, mais prend une approche qui est diamétralement opposée, et puis surtout avec une approche conceptuelle qui est relativement différente de la première. Souvenez-vous, nous avions discuté de ça au premier cours, hein, de vous montrer deux façons d'attaquer ce problème, deux façons différentes. Et c'est le programme. La semaine passée, très rapidement, nous avons attaqué cette publication qui est pas très simple, hein, et puis la seconde ne sera pas simple non plus, mais dans laquelle les auteurs avaient constaté que dans le gène TBXT, qui est ce fameux gène codé par le locus T, nous avons beaucoup discuté, donc qui est responsable chez la souris d'une perte de la queue totale, ou d'une short tail, cette mutation découverte à l'Institut Curie. Et ces auteurs ont remarqué en fait que dans ce gène TBXT, chez les grands singes et chez les humains, est venu s'insérer un petit élément qui fait partie de la famille des éléments répétés ALU. C'est un élément que vous voyez là, qui s'appelle ALU-Y, qui fait partie de la famille des éléments ALU-S, qui font eux-mêmes partie des éléments ALU. Mais cette famille d'éléments ALU-S a cela de particulier qu'elle a évolué relativement récemment, à peu près moins 25, moins 30 millions d'années. C'est à cette époque qu'on estime qu'il y a eu cet envahissement du génome humain par ces séquences ALU-S. Or, souvenez-vous, le moment auquel s'est passée la perte de la queue chez les grands singes, donc entre les gibbons et les singes de l'Ancien Monde, précisément c'est aux alentours de moins 25, moins 30 millions d'années, d'où l'hypothèse de ces auteurs que l'arrivée de cette séquence aurait pu être d'une façon ou d'une autre causale, ou en tout cas associée à la perte de la queue. Alors, cette petite séquence, c'est important de se souvenir qu'elle a un sens, bien entendu, et elle se trouve entre l'exon 6 et l'exon 7 du gène TBXT. Pourquoi je dis que son sens est important? Parce que entre l'exon 5 et l'exon 6 se trouve une autre séquence, ALU-S, qui, elle, a une direction opposée. Or, comme ces séquences sont codées par des brins différents, puisqu'elles sont opposées, eh bien, le résultat est qu'elles sont capables de faire un pairing, et donc d'induire un petit loop, hein, illustré ici. Et puis, ce petit loop va faire en sorte que la machinerie de l'épissage ne va pas reconnaître, et donc va sauter l'exon 6. Hein, c'était ça l'idée principale que j'ai essayé de développer la semaine passée, c'est que le saut de cet exon 6 va produire un ARN qui est un peu plus court, qui va produire, lui, une protéine qui sera toujours en phase. Parce que entre l'exon 5 et l'exon 7, on ne perd pas la phase codante lorsque l'on enlève l'exon 6. Donc la protéine, en fait, est toujours là. La seule différence, c'est que la petite protéine a un trou, il lui manque une séquence peptidique et qui correspondait à ce que l'exon 6 était capable de coder. Voilà. Donc ça, c'est important de vraiment de garder en mémoire. C'est qu'on a affaire à deux protéines. Là, on parle de l'humain, des grands singes, qui sont produites à peu près en quantité égale et qui sont identiques, sauf que à la petite, il manque un certain nombre d'acides aminés. C'est ce que vous voyez illustré ici. Et donc, pour vérifier cette hypothèse, souvenez-vous, ce que les auteurs ont fait, c'est de se dire, prenons un animal qui a une queue et essayons d'introduire ces séquences chez cet animal, la souris en l'occurrence, et puis voir si l'introduction de ces deux séquences à l'U dans une position inversée peut produire également une petite protéine. Alors, d'abord, avant de faire cette expérience, comme expérience contrôle, ces auteurs vont simplement enlever l'exon 6 pour dire, mais si d'aventure ces deux séquences à l'U peuvent faire en sorte que l'épissage ne reconnaisse pas non plus chez la souris, donc on produise une petite protéine, quel serait l'effet de cette petite protéine chez la souris? Donc pour faire ce qu'on appelle le benchmark, ils vont simplement enlever l'exon 6 chez la souris, produire une souris qui est donc hétérozygote pour une petite protéine, hétérozygote pour la protéine normale. Et il remarque en fait que la pénétrance de cette mutation est beaucoup en dessous de celle qu'on voit chez les humains, puisque vous voyez que des souris auxquelles il manque de façon hétérozygote l'exon 6 peuvent avoir une queue qui est pratiquement normale. Mais on voit aussi qu'elles peuvent avoir une queue très réduite, pratiquement inexistante, ou des queues avec un peu de kink ici, des petites cassures, etc. Donc il y a une grande diversité des phénotypes, mais c'est certainement moins pénétrant que chez l'humain, pour autant que chez l'humain, effectivement, la perte de la queue soit liée à cet exon skipping. Alors, est-ce que ce petit ARN est vraiment produit par un exon skipping grâce à ces deux séquences à l'U? Est-ce que ces deux séquences sont vraiment causales de cet exon skipping? Et donc là, il réintroduit ces deux séquences chez la souris. Et puis vous voyez, à la fin de la leçon précédente, que finalement, ça n'a pas beaucoup d'effet sur la souris. On verra plus tard que finalement, on produit une petite protéine, mais elle est de l'ordre de peut-être 5-10%, pas plus. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'effet. Peut-être est-ce dû au fait que ces séquences sont des séquences humaines. Alors, il n'y a pas vraiment de raison que dans le système souris, elles ne soient pas reconnues, puisque là, on ne parle pas d'une reconnaissance particulière, on parle simplement d'un pairing, hein, ADN-ADN. Donc, finalement, ce n'est pas tellement important d'où elles viennent. Et donc, ces auteurs vont faire une autre expérience qui est simplement de dupliquer une séquence qui est endogène à la souris. On va dire, on va simplement prendre une séquence qui existe, peu importe laquelle finalement, qui existe entre l'exon 6 et 7, et puis on va l'introduire de façon opposée, dans une orientation opposée, entre l'exon 4 et 6. Donc on va simplement introduire un repeat inversé qui flanque l'exon 6. Hein? Et puis quand ils font ça, alors la réponse est un peu différente. On voit que maintenant, il y a une réduction, mais franchement, c'est loin d'être une agenèse de la queue, c'est de l'ordre de 10%. Par contre, quand ils prennent ces souris hétérozygotes et qu'ils les croisent avec les souris auxquelles il manque l'exon 6, donc les souris délétées que je montrais tout à l'heure, là, ils obtiennent des phénotypes qui sont beaucoup plus forts, que vous voyez là. Ce qui veut dire deux choses, en fait. C'est que, oui, il semble que la délétion de l'exon 6 soit en grande partie responsable de ce phénotype de la queue. Et oui, Il semble que lorsque l'on met des séquences inversées de part et d'autre d'un exon, ça peut induire un exon skipping. Cependant, c'est absolument clair qu'il y a un vrai problème d'effet de dosage. Que l'effet chez la souris est beaucoup moindre que l'effet observé chez les humains, chez les grands singes, pour autant que, comme je le disais, que ce soit l'effet. On le voit ici très bien. Vous avez sur la gauche la souris qui a ces deux séquences alu de part et d'autre. Et vous voyez que le petit ARN est produit vraiment dans l'ordre de peut-être 5-10%. Et souvenez-vous, chez les humains, c'était 50-50. Hein, c'était absolument clair. Lorsque vous avez ces deux mêmes séquences aux mêmes positions, l'exon est sauté pratiquement à 50%. Par contre, vous voyez là que lorsque vous introduisez ces deux séquences de souris, peu importe lesquelles, de part et d'autre de l'exon 6, là, vous avez une production de ce petit ARN qui est même supérieure à l'ARN normal. Et pourtant, vous n'avez qu'une différence de 10% dans la queue. Vous voyez ici, 10% dans la longueur de la queue. Donc une condition qui est supposée suffisante pour enlever la queue chez les grands singes est une condition qui, chez la souris, va simplement vous la raccourcir de 10% minimum, puisque vous avez même plus de petites protéines qui sont produites. Et voilà, vous voyez ici la distribution chez l'humain normale, hein, le gène TBX, où il n'y a absolument rien qui est fait, et vous voyez que c'est pratiquement 50-50 entre le grand ARN et le petit ARN. Donc il y a pour moi un problème de dosage qui est difficile à expliquer, mais souvenez-vous, à la fin de la leçon précédente, je vous mentionnais quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est fascinant en fait. Il semble que ce n'est pas là un cas isolé où on a des phénotypes qu'on appelle semi-dominants chez les humains qui sont récessifs chez la souris. Je vous le répète parce que c'est vraiment un point important. Un phénotype semi-dominant, c'est un phénotype qu'on observe avec une copie touchée, mutée. Mais lorsque vous mutez les deux copies, vous avez un phénotype qui est pire. Donc c'est semi-dominant. Hein? Eh bien, beaucoup de mutations chez les humains qui sont semi-dominantes, chez la souris, les mêmes mutations, lorsqu'on les répète, sont plutôt récessives. Il faut qu'on enlève les deux copies pour voir. Et je mentionnais à la fin du cours précédent que peut-être est-ce dû au fait que les humains, pour des raisons, les humains, les grands singes, les animaux peut-être plus qui vivent plus longtemps, qui sont plus grands, qui ont plus de peu importe, ont un besoin d'un dosage général qui est moins élevé que celui des petits rongeurs qui vivent peu de temps finalement. Et peut-être que ça pourrait poser des problèmes si ces rongeurs vivaient 40, 50, 70 ans. C'est des hypothèses qui restent vraiment à analyser. Pourtant, les homozygotes sont létaux chez la souris. Lorsque vous prenez ces souris auxquelles il manque l'exon 6 et que vous les recroisez entre elles, frères et sœurs, eh bien, vous avez des phénotypes qui sont létaux chez l'embryon. Donc ça a quand même un effet. Cette petite protéine, elle a quand même un effet très sévère. Quand vous n'avez pas de protéines natives, bien vous voyez qu'on part à peu près une létalité qui démarre à jour 9,5 chez la souris, ça veut dire peut-être un mois et demi chez les humains. Le développement s'arrête, parfois ça va un peu plus loin. Il y a des gros problèmes avec le système nerveux, etc. Alors évidemment, la question cruciale, c'est quel est l'effet de cette petite protéine? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que cette petite protéine fait, interfère avec quoi pour supplanter la fonction normale de la grande protéine? Alors on peut imaginer plusieurs scénarios. J'en ai mis quelques-uns ici. On peut imaginer, par exemple, qu'il y aurait un changement dans la liaison de l'ADN. Peut-être que cette petite protéine ne reconnaît plus exactement les mêmes séquences d'ADN, donc va changer l'ensemble des cibles à réguler dans le génome, puisque, je vous rappelle, c'est un facteur de transcription. Peut-être qu'il y a un changement dans la capacité à réguler des gènes cibles. Peut-être que cette petite protéine reconnaît parfaitement les endroits où atterrir, mais elle est incapable de faire son boulot une fois avoir atterri, en amont d'un gène cible, peut-être incapable d'activer ce gène ou incapable de réprimer ce gène par manque de la séquence qui serait en partie dans cet exon, codé par cet exon 6. On peut aussi imaginer qu'il y a un changement dans les interactions avec d'autres facteurs, parce que la protéine, évidemment, va changer sa structure dans l'espace, et donc peut-être qu'on ne peut pas recruter un facteur ou une modification, etc. Et pour répondre à cela, les auteurs vont commencer par analyser les transcriptomes, donc les contenus en ARN, chez la souris, évidemment, qui n'ont pas les délétions de l'exon 6 chez les homozygotes, chez les hétérozygotes. Donc, transcriptome, on en a souvent parlé dans ce cours. Pour faire bref, c'est simplement l'ensemble de tous les ARN qui sont transformés en ADN par de la transcriptase inverse et puis séquencés. Donc un transcriptome, c'est l'état de tous les ARN que vous avez dans un échantillon au moment, au temps où vous prenez cet échantillon. Donc ça va vous donner une sorte de panorama général. Si vous faites le transcriptome de cellules musculaires, vous allez avoir des grandes différences avec le transcriptome de cellules neurales parce que le contenu en ARN sera différent dans les deux cas. Il y aura bien sûr des grandes similarités. Tous les ARN des gènes de ménage n'auront pas beaucoup de changements, finalement, hein, qu'on a défini au premier cours. Mais évidemment, il y aura beaucoup d'ARN spécifiques qui seront dans l'un et dans l'autre. Alors, ils vont faire ces transcriptomes. Et puis, ils vont utiliser un logiciel, un algorithme qui va donner les similarités entre ces transcriptomes, qu'on appelle une analyse par composant principal, peu importe comment ça fonctionne. Mais ce que ça vous donne, c'est sur un espace en deux dimensions, ça va vous donner la position de ces transcriptomes, et quand ces transcriptomes sont proches l'un de l'autre, ça veut dire évidemment que les cellules, que les tissus que vous avez analysés sont proches l'un de l'autre. Hein? Alors c'est ce que vous voyez là, sur la gauche, avec ici deux points qui sont les types sauvages. Alors pourquoi deux points? Parce que dans ce type d'analyse qui demande une analyse statistique, il faut absolument avoir plusieurs échantillons, les mêmes, ce qu'on appelle des réplicas, pour être sûr que l'expérience a bien marché. Donc c'est deux fois la même analyse, mais séparée. Donc si vous poussez des cellules, vous allez avoir deux boîtes de cellules, les mêmes au même temps, que vous allez traiter de la même façon. Et vous espérez bien sûr que dans ce type d'analyse, ces cellules vont être très proches l'une de l'autre. Ces transcriptomes vont être très proches l'un de l'autre. Et c'est ce que vous voyez là avec le type sauvage. Ici, avec la délétion de l'exon 6 chez la souris, ici, avec la position des deux alus, des deux séquences alus chez la souris, et ici, homozygote pour la délétion de l'exon 6. Vous voyez qu'en vert, là, en fait, on a deux points qui sont relativement éloignés. Et ça veut probablement dire qu'il y a eu un problème dans la préparation des échantillons, parce qu'ils ne devraient pas être éloignés l'un de l'autre, puisque ce sont des réplicas. Et en fait, lorsque vous regardez tout à droite ici, vous voyez maintenant une autre façon de voir ces résultats, avec sur la droite les deux réplicas que vous avez ici en vert, et vous voyez qu'entre ces deux lignes, il y a beaucoup plus de différence qu'entre ces deux lignes ou ces deux lignes. Donc c'est cohérent. On voit qu'il y a eu un problème dans la préparation de cet échantillon ici. D'accord ? Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que on a... Si une proximité existe, je dirais, elle serait plutôt entre les souris qui ont les deux séquences alus et les souris qui ont la délétion de l'exon 6, homozygote. D'accord. Donc, c'est quelque chose que je ne comprends pas très très bien, mais c'est le résultat de leur analyse en PC, en composant principale. Alors généralement, cette analyse vous donne quels sont les composants principaux, par exemple le temps de développement, etc. Mais dans la publication, je ne l'ai pas trouvé, en fait. Donc c'est vraiment une comparaison flat, totalement plate, où dans un espace, on voit en fait les relations entre les différents transcriptomes. Sur la droite, c'est une façon différente d'analyser. Vous voyez que c'est toute une série de gènes qui ont été choisis. Chaque ligne horizontale est un gène. Et quand il est bleu, ça veut dire qu'il est très peu exprimé, voire pas exprimé, bleu foncé. Quand il est rouge, il est relativement bien exprimé ou très exprimé, rouge-violet. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'il y a toute une série de gènes dans cette configuration, donc dans les types sauvages, d'accord, dans le wild type, qui sont très exprimés alors qu'ils ne le sont pas du tout dans les souris qui ont ces deux séquences à lui. En fait, ce que ça vous montre, c'est qu'il y a des différences dans l'expression de ces gènes. Vous direz, s'il y a des différences dans la longueur de la queue, ce n'est pas très surprenant. Si effectivement les souris qui sont homozygotes meurent tôt pendant le développement, ce n'est pas très surprenant. Et malheureusement, en fait, cette analyse, elle est faite sur des cellules qui sont différenciées en mésoderme. Elles ne sont pas faites sur des embryons. Donc, c'est ce que je vous disais la semaine passée, on peut prendre des cellules souches, ES, et puis il faut les analyser à un stade où le gène TBXT est exprimé, autrement ça n'a aucun sens. Donc on va différencier ces cellules en mésoderme, et c'est à partir de là qu'on va collecter ces cellules pour faire ces transcriptomes. Alors on peut très bien imaginer en fait que dans ce cas-là, une partie des cellules d'un des deux réplicas n'était peut-être pas bien différenciée, parce que vous voyez que ce point-là est quand même plus proche du type sauvage. Vous voyez, donc si on imagine que dans cette expérience, il y avait un certain pourcentage de cellules qui étaient toujours des cellules non différenciées, hein, parce que le protocole n'a pas été suivi, ou ça n'a simplement pas bien marché, eh bien on aurait une situation de ce genre. On aurait ce transcriptome qui serait en fait un mélange. Parce qu'évidemment, toutes les cellules sont ramassées en un échantillon. Okay. Donc on aurait un mélange de transcriptomes de ces cellules différenciées en muscle, un mélange de transcriptomes de ces cellules de type sauvage. On aurait ce type de vue. Alors évidemment, quand on voit ce type d'analyse, on aimerait en voir plus. Hein. On aimerait dire, voilà, est-ce qu'on pourrait faire par exemple une étude de l'accession de la chromatine, l'accessibilité à la chromatine pour voir quels sont les gènes qui sont dérangés, ou bien simplement dans cette analyse, est-ce que tous ces gènes-là qui sont peu exprimés dans le wild type, dans le type sauvage, et qui sont très exprimés ici, à quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à la fabrication de quelque chose, d'un tissu, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas fait dans ce travail. Et vous voyez que la conclusion, à mon avis, est quand même un tout petit peu décevante. La conclusion de cette analyse de transcriptome, ils disent, eh bien, cela révèle un réseau de gènes de régulation compliqué. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me laisse un peu sur ma faim. Alors, c'est la fin de cette publication et on va rentrer dans la discussion. Et les auteurs vont discuter sur, je dirais, deux niveaux différents. Il y a d'abord une petite discussion sur un niveau qu'on pourrait dire un niveau mécanique, mécanistique, où la première remarque qu'ils font, c'est que lorsque l'on regarde la structure de la protéine et la littérature, il semble que cet exon 6, en fait, ne touche pas le domaine de liaison à l'ADN, mais touche plutôt des domaines de transactivation, de transrépression. Donc il semble que cette petite protéine pourrait très bien reconnaître normalement tous les sites d'ADN où elle doit aller, mais une fois qu'elle y est, elle ne peut pas faire son travail. Et puis, la phrase que l'on trouve très souvent dans la littérature scientifique, ben c'est que, mon Dieu, future work is required. Le travail à venir est nécessaire pour qu'on puisse comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. Voilà. Alors, je vais vous dire que la discussion théorique n'est pas beaucoup plus informative, mais je pense qu'elle est assez révélatrice. Vous voyez que la discussion commence en disant « Nous présentons des évidences pour un scénario qui implique, which involves, qui implique, donc au temps présent, en fait. » Et donc, cette phrase suggère vraiment une relation directe de causalité entre la production de cette petite protéine et la perte de la queue chez les grands singes. Mais les auteurs sont quand même plus prudents. Et vous voyez qu'en dessous, ils vont dire que c'est une influence substantielle et qu'il y a dû avoir des changements génétiques additionnels pour stabiliser. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment aller au mot, presque faire de la philologie dans ce genre de publication pour vraiment comprendre ce que les auteurs ont voulu dire. Des changements génétiques additionnels, bien sûr. On ne peut pas imaginer une minute que la production d'une toute petite protéine, d'une protéine plus petite, aurait, il y a 25 millions d'années, supprimé la queue chez les... Bon. Donc, il y a eu, bien entendu, d'autres éléments génétiques. Mais là, il parle d'autres éléments génétiques pour stabiliser cette transformation. Ça veut dire que la transformation elle-même n'aurait pas eu besoin d'autres éléments génétiques. Il faut bien lire ce qui est écrit. Et ensuite, ils disent tout de même que la réduction de la queue ou la perte de la queue s'est passée de façon indépendante. Par exemple, chez les loricidés, chez les petits loris à Madagascar, il y a eu une perte de queue qui n'est pas liée à cet événement. Donc, plusieurs façons peuvent être utilisées. Évolution convergente, etc. Et l'étude de génome additionnelle sera intéressante dans le futur. Donc, en fait, à la fin de cette discussion, on a l'impression d'une relation qui n'est peut-être pas aussi directe entre un élément direct de l'ADN et une transformation si importante pour les singes. Mais évidemment, il y a deux lectures dans la littérature scientifique. Et cette publication en est vraiment un très très bel exemple, c'est pour ça que je souhaitais vous la présenter. Il y a une sorte de ce que j'appelle une rhétorique d'association qui est de plus en plus utilisée en fait dans les publications scientifiques, où l'on voit qu'on a une lecture du texte qui est relativement prudente, et vous voyez ici le schéma final de cette publication, où l'on a une légende qui est en tout petit fonte, qu'on a de la peine à lire, mais qui, je vous le confirme, contient en tout cas deux ou trois conditionnels « may have acted »,« may have marked », etc. Par contre, au-dessus, vous voyez un schéma qui est en noir, donc qui a un impact direct sur notre vision, en fait, sur notre compréhension de cette publication, où l'on voit un singe qui a une queue sur la gauche et puis qui va se transformer en singe qui n'a pas de queue, avec un grand rond rouge qui est l'insertion de cette séquence ALU. Donc on a vraiment deux niveaux de lecture. On a une lecture qui est, je dirais, scientifique, plutôt balancée dans un texte, mais évidemment, peu de collègues lisent les textes, et on tombe sur ce schéma final qui nous résume toute la publication sans avoir besoin d'aller dans les détails. Alors vous savez que Nature, donc le magazine dans lequel est publiée cette étude, Nature, lorsque ce magazine veut magnifier ou rendre une publication particulière visible pour le grand public, va écrire des petits commentaires qu'on appelle des news and views. C'est ce que l'on appelle dans le backhand du journal. Donc, il y a une partie scientifique qui est la première, et puis il y a une grosse partie derrière, qui est une partie de nouvelles, de commentaires, dans lesquels on va trouver ces news and views. Donc, c'est ce qu'on va envoyer au New York Times, etc. Et donc, Nature, dans ce cas particulier, a demandé à deux collègues d'écrire un news and views, Myriam Conkel et Emily Casanova. Et vous voyez que dans ce cas-là, sur les 10 premières lignes, il y a en tout cas 5 conditionnels. Could explain the loss, la perte de la queue chez les singes ancestraux. Might have happened, could have become, could have played, could have resulted. Donc vous voyez que ces deux collègues écrivent un commentaire qui est quand même extrêmement bien balancé en disant « attention, c'est une hypothèse », etc. Alors maintenant, il y a le titre. Et le titre, vous l'avez là. De l'ADN mobile explique pourquoi les humains n'ont pas de queue. Voilà. Donc on a un grand titre en mode affirmatif, un petit texte en mode conditionnel. Et puis vous voyez que c'est très intéressant parce que finalement le titre, eh bien, il a le même fonte noire que les singes. Donc en fait, quand vous regardez cette publication à la fin, vous vous souvenez de ce titre du News and Views qui va circuler et puis de cette image du schéma. Alors, à l'heure des charges, je dois vous dire que je ne suis pas du tout convaincu que ses collègues aient choisi le titre. Hein. Peut-être même pas non plus le schéma, finalement. C'est un travail éditorial qui est fait par les éditeurs de ce journal. Alors, passons maintenant à une autre façon d'attaquer cette question, qui est une approche du même problème, mais alors par une analyse globale. Et je ne vous cache pas que, pour moi en tout cas, la difficulté est plus importante que ce qu'elle ne l'est avec ces questions d'ARN, etc., pour expliquer clairement ces méthodes d'approche globale. Mais je vais faire mon possible. Alors, on parle ici d'une petite souris qui s'appelle la souris sylvestre, qui est le deer mice en anglais, qui est un rongeur de la famille des Chrysetidae, dont le nom est Peromyscus maniculatus. Et ces souris existent en deux écotypes différents, c'est la même espèce. Donc on peut les recroiser, ce qui est absolument critique, mais elles existent en deux écotypes différents. Il y a un écotype qui a une queue relativement longue et l'autre une queue relativement courte, la queue longue vivant en milieu arboricole, la queue courte vivant en milieu de prairie. Alors ces auteurs vont prendre une approche, ce sont des collègues qui sont à la fois des biologistes de développement, mais qui sont aussi des généticiens des populations, donc qui ont l'habitude de voir les problèmes d'une façon très globale, et donc vont prendre une approche qui est différente, qui est une approche populationnelle, pour essayer de comprendre comment, pourquoi ces deux queues ne sont pas de la même longueur, est-ce que ça a un lien avec les habitats différents. Et là, je vous montre le résumé qui fait trois points principaux. D'abord, il va y avoir une recherche d'une pression de sélection, c'est-à-dire ces auteurs vont se poser la question, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important en milieu arboricole d'avoir une queue plus longue qu'en milieu prairie ? Ou bien est-ce que c'est simplement un drift, quelque chose qui s'est passé de façon naturelle ? Puis comme ça ne changeait rien à la vie de ces souris, ben c'est resté. Ensuite, une approche non biaisée, qui va en fait révéler qu'au moins 6 leucies génétiques sont responsables de cette différence. Donc vous voyez qu'on rentre ici dans ce qu'on appelle la génétique quantitative. On n'est plus du tout dans un schéma où on a un gène, une mutation, une queue longue, une queue courte. On est dans un schéma où on a plusieurs locus qui ont des aspects quantitatifs, qui vont tous participer à quelque chose d'une façon telle que quand on en enlève un, eh bien, on ne va pas voir grand-chose. Et c'est là la difficulté. C'est de la génétique quantitative. Et puis en fait, deux de ces variants vont être cartographiés sur des endroits du génome qui nous sont bien connus, en fait. C'est ces fameux clusters de gènes architectes, ces gènes HOX, qui, comme nous allons le voir, sont importants pour la queue. Alors ces souris, ces deux écotypes en particulier, bien, on estime qu'ils ont à peu près 10 000 ans de différence. Ça remonte à la retraite des glaciers en Pennsylvanie, ici, qui ont laissé la place à des forêts. Vous voyez sur la gauche, voilà, à des forêts, ici. Donc vous avez un écotype qui est Peromyscus maniculatus berdii, qui est la version prairie de ces petites souris. Alors je les appellerai prairie. Et puis les allèles P. Je ne vais pas non plus chaque fois remonter. Et puis, la version ici, donc ça, c'est dans le sud du Michigan, et puis ici, en Pennsylvanie, ben, c'est la même espèce, mais qui vit en milieu arboricole depuis une dizaine de milliers d'années. Et donc, cette différence de queue que vous voyez sur la droite, avec tout de même une différence qui peut aller jusqu'à 60% de plus longue pour les souris arboricoles, donc c'est une différence qui est, qui est importante. Alors, le grand avantage de ce système, c'est que ces souris ont naturellement évolué une différence génétique qui, comme on va le voir, semble être adaptative, donc être utile, mais on peut les garder en laboratoire. Donc on peut avoir des souris qui, en maintenant ces différences de longueur de queue, peuvent être relativement consanguines, parce qu'on les garde en laboratoire, donc elles ont un génome qui est relativement comparable, et qu'on peut croiser. D'accord ? Donc on va avoir une situation, et c'est tout là l'avantage de ce système, on va avoir une situation où on a deux populations de souris qui ont deux génomes, chacun étant très homogène, mais très différent l'un de l'autre au niveau des polymorphismes, et on peut les croiser, et ces deux écotypes de souris ont des longueurs de queue très différentes. D'accord ? Donc ça, c'est le départ de l'étude, hein. Et quand on a compris ça, on imagine déjà ce qu'on peut faire de ces souris en les recroisant, etc. Alors, premièrement, comment peut-on quantifier ces différences, hein ? Là, on a vraiment affaire à des généticiens des populations, donc des gens qui aiment bien quantifier les phénotypes. Et vous voyez ici que lorsque l'on regarde la queue de ces souris, eh bien, on voit qu'à la fois, le nombre de vertèbres caudales en vert arboricole, cet arboricole sera toujours vert, est plus élevé chez les souris forêt que chez les souris prairies. Et on voit également sur la gauche ici que la longueur des vertèbres est plus élevée chez les souris arboricoles que chez les souris prairies. Autrement dit, l'augmentation de la longueur de la queue est due en fait à deux facteurs. Il y a plus de vertèbres et elles sont plus longues. Alors, est-ce qu'elles sont plus longues simplement parce que tout est plus long chez ces souris ? Eh bien non, parce que les auteurs vont utiliser, vous voyez sur la droite, ils vont utiliser le sacrum, la mesure du sacrum comme contrôle. Et quand vous mesurez le sacrum des souris prairies et des souris arboricoles, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Donc tout ce qui est dans la partie antérieure jusqu'au sacrum, c'est pareil. Quand on rentre dans la queue, on voit que les vertèbres sont un tout petit peu plus longues et le nombre est un tout petit peu plus élevé. Mais vous allez voir que ce n'est pas des chiffres très importants, hein. On parle de une ou deux de plus, etc. Alors ensuite, une fois que le système est calibré, vous verrez que c'est extrêmement important parce que on est obligé, quand on travaille avec des outils quantitatifs, d'avoir vraiment des readouts, ce qu'on appelle des readouts, donc une façon de mesurer les différences qui est très précise. Parce qu'on va, au niveau d'une population, mesurer les différences entre 1, 2, 3, 4 vertèbres. D'accord. La deuxième question que se posent ces auteurs, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ces souris ont un avantage d'avoir une queue plus longue quand elles sont en milieu arboricole? Alors ça, évidemment, c'est une question qui est, à mon avis, à laquelle on ne peut pas vraiment répondre, mais ils vont quand même faire un test qui est assez intéressant. Ils vont construire une petite boîte, que vous voyez sur la gauche, là, qui a 65 cm de hauteur, ce qui est important, hein, c'est pas haut pour nous, mais imaginez en relation avec une petite souris, c'est vertigineux, hein. Et puis, il va y avoir un chemin, une barre, et donc les souris vont être déposées au début de cette barre. Les souris ont beaucoup de curiosité, de potentiel d'exploration, et vont donc essayer de traverser cette barre, comme sur une petite branche d'un arbre. Et donc, les auteurs vont mesurer le nombre de fois que ces souris peuvent traverser sans tomber. Là, on est dans un paradigme expérimental, manuel, construit. Et, voilà. Et alors, je vous montre d'abord la version du bas, qui est la version toujours en vert arboricole. Et vous voyez que cette souris traverse allègrement. Alors, vous avez peut-être vu la queue, c'est très intéressant. On voit que la queue passe à gauche, à droite, peut-être en synchronisation avec le mouvement des pattes. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je vous montrais ces rats d'Elisabeth Miller, on voit que cette queue semble être utilisée comme un balancier, parce qu'évidemment, chaque fois que vous allez faire un pas, vous allez pencher d'un côté, donc la queue va partir, etc. Cette supposition. Alors maintenant, évidemment, le côté plus pathétique, c'est la souris de prairie qui voilà. Bon, je trouve ça un peu triste, je vais donc passer à la diapositive suivante. On ne va pas se moquer de ces souris qui font leur possible, quand même. Alors, vous voyez que, comme d'habitude, il y a une quantification. Donc, ces auteurs vont prendre 31 souris de prairie, vont analyser le comportement de 31 souris de prairie, de 32 souris arboricoles. Et puis, en fait, ce que vous voyez là, c'est le nombre de tentatives. Hein. Donc, avec le nombre de souris, donc, en fait, vous avez ici, sur une souris qui va faire une trentaine de tentatives, une souris arboricole ne va rater qu'une fois. Et vous voyez que sur toutes ces tentatives, hein, bref, il n'y a que trois fois où ces souris arboricoles ratent, alors qu'en fait, quand vous regardez les souris prairies, c'est une catastrophe. Mais tout de même, certaines arrivent à passer. Et donc, de cette analyse, les auteurs tire une conclusion qui, je pense, est relativement correcte. Ils disent, oui, effectivement, ça suggère qu'avoir une queue en milieu arboricole peut être utile pour échapper à des prédateurs, etc. Néanmoins, il est évident, et c'est ce qui est écrit ici, néanmoins, il est évident qu'il y a tout un nombre de facteurs que vous pouvez vous-même proposer et conclure qui pourraient rentrer en jeu, qui ne sont pas analysés. Peut-être ces souris ont développé une force dans les doigts qui est supérieure à la prairie. Peut-être que les souris de prairie ont développé un vertige et n'aiment pas être encore qu'elles ont une vision très très réduite, mais etc. etc. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez objectivé. On dit voilà, ça peut contribuer à la longueur des moustaches, hein, qui est aussi bref. Il peut y avoir d'autres facteurs. Alors maintenant que ces auteurs établissent que vraisemblablement il y a une valeur adaptative à la longueur de la queue, eh bien il va s'agir de savoir d'où elle vient. Quels sont les locus génétiques qui ont été responsables peu à peu de l'allongement de la queue et des vertèbres. Alors comment aller chercher ces éléments génétiques s'il y en a plusieurs ? C'est là que les choses se compliquent un peu et je pense que une des bonnes façons de comprendre ces méthodes, c'est de remonter aux différents types d'architecture génétique qu'on peut rencontrer lorsqu'on s'intéresse au développement, à l'évolution. Ces types d'architecture génétique, il y en a essentiellement quatre qui passent, je dirais, du plus simple à gauche, en bleu, au plus complexe à droite, en rouge. Il y a d'abord ce qu'on appelle des systèmes monogéniques. Alors ça, maintenant, vous comprenez tout ce que c'est. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des systèmes où on a un phénotype qui dérive généralement d'un problème à un seul locus génétique. Ça peut être un gène, ça peut aussi être une séquence de régulation, peu importe. Un problème, un effet, monogénique. Ensuite, il y a des architectures génétiques qui sont très proches et qui généralement se traitent de la même façon. C'est des systèmes oligogéniques où on a quelques gènes, quelques loci. Je devrais plutôt dire loci que gènes, hein, parce que ça peut être des éléments de régulation, où il y en a deux, peut-être trois. Donc on arrive à s'en sortir avec des méthodes que je vais vous décrire. Ensuite, on passe dans un système alors qui devient plus complexe, qui est un système polygénique où on a vraiment beaucoup de gènes impliqués, jusque même un système omnigénique, alors la définition est un peu large, mais où il y a vraiment énormément de gènes impliqués. Alors vous voyez que quand on passe de la gauche à la droite, dans les faits, on passe de 100% à 1% si un système omnigénique implique 100 gènes avec la même force d'action. Hein ? On a un système tout à gauche où un gène fait tout. Et vous voyez ici, comme exemple, ces auteurs donnent la drépanocytose, donc l'anémie falciforme. L'anémie falciforme, vous savez que c'est une maladie qui touche les globules rouges, donc la production de globines, donc les globules rouges, qui sont quelque chose qui est en fin de différenciation, tout à la fin. À la fin de tout ce qui va conduire à la fabrication d'une globule rouge, d'un globule rouge, vous avez les globines qui arrivent. Les globines n'ont rien à voir avec le cerveau, avec, etc. Ce ne sont pas des gènes pléiotropiques. Donc, assez souvent, les systèmes, les architectures monogéniques ou oligogéniques touchent des gènes qui sont généralement en fin de parcours. Ce ne sont pas des gènes qui sont en amont, qui vont faire tellement de choses que là, on va rentrer dans quelque chose de plus sévère. Mais vous avez aussi la mucoviscidose, etc. Quand vous passez au système polygénique, ou omnigénique, alors là, il donne comme exemple la taille, eh bien, c'est vraiment le critère que tout le monde peut comprendre. Il y a eu depuis 20 ans de très nombreuses approches pour essayer de comprendre quels sont les gènes qui sont impliqués dans la taille. Et en tout cas, deux grandes études, deux grandes cohortes. Et en fait, quand vous prenez les 20 premiers loci génétiques qui sont importants, les plus importants pour la taille, et que vous les regardez tous au vert, c'est-à-dire quand vous trouvez quelqu'un, quand vous trouvez une sous-population de votre population qui a tous ces loci génétiques en faveur d'une grande taille, eh bien, ça n'explique guère que 20% de la taille. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose. Et puis, alors, en plus, la taille, on arrive dans des systèmes où viennent se mêler des éléments épigénétiques, puisque ça va dépendre de l'alimentation, du lait, etc. Donc, on est vraiment dans des systèmes très compliqués. Alors, quels sont les outils qu'on a pour attaquer ces systèmes? Eh bien, il y en a, je dirais, essentiellement deux qui sont comparables, qui reposent en tout cas sur les mêmes principes généraux. Hein. C'est soit de faire des associations verticales, soit de faire des associations horizontales. Les associations verticales, c'est finalement la famille. Alors, il n'y a pas que la famille, mais c'est en gros la famille. Vous vous souvenez tous du début du Téléthon, etc., où en fait, beaucoup de systèmes monogéniques ou oligogéniques ont été découverts dans des grandes familles. Hein, les généticiens humains à l'époque se passaient les familles. Hein, t'échanges une famille de l'Afghanistan dans une vallée ou d'une autre vallée, d'une autre famille, etc., parce que c'était des grandes familles dans des endroits relativement isolés, donc où on peut développer des génomes qui ne sont pas trop variants, hein, et où un trait particulier se transmettait. Vous avez ici quelque chose qui est chez le grand-père, puis chez les parents, chez les enfants, chez les petits-enfants. Si vous avez une famille avec 12 enfants à chaque génération et que vous transmettez ce trait à plusieurs à chaque génération, ça va beaucoup faciliter la localisation du problème sur le génome. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, il y a une autre façon qui est alors de dire on n'a pas de famille, on a des populations. Et là, on prend une approche populationnelle qui est d'essayer simplement de faire une association entre un trait, alors une population, la taille, la couleur de la peau, la couleur des yeux, peu importe, hein, la couleur des yeux, c'est un mauvais exemple, mais un trait particulier et la présence de polymorphisme particulier. Alors, polymorphisme, qu'est-ce que c'est? Bien, dans ces études d'association, c'est très généralement ce qu'on appelle des SNP, donc des Single Nucleotide Polymorphisme, c'est-à-dire des endroits du génome où vous allez avoir, par exemple, un T à la place d'un A. On estime à peu près, dans la population humaine, que chacun d'entre nous a en gros un polymorphisme tous les 1000 paires de bases. D'accord? Donc vous voyez que si on compare le génome de tous les gens qui sont dans cette salle, on va évidemment avoir quelque chose de très comparable, mais ce sera très différent. Ce sera très comparable parce que les gènes seront là, les éléments de régulation seront là, mais par contre, dans un endroit qui n'est pas très important, moi j'aurais plutôt un T et quelqu'un aura plutôt un A. Mais ces polymorphismes, ils ne sont pas hasardeux. Hein, ils vont être transmis dans la génération, donc on va pouvoir les suivre à la fois dans une approche verticale et dans une approche horizontale. Dans une approche verticale, dans une famille, on va se poser la question suivante. Est-ce que ce trait, est-ce que cet enfant qui a un problème que mon grand-père déjà avait, puis le père, la mère avait, et puis qu'on a transmis, est-ce que ce problème est toujours lié à la présence des mêmes polymorphismes quelque part? Donc on va prendre des chips, par exemple, et puis on va regarder tous les polymorphismes qu'on va choisir. Il n'y aura pas tous les polymorphismes génomes, mais on va mettre sur un chip ceux qui... Et puis, ces chips, on sait où ils sont. Ces SNPs, on sait où ils sont. On sait que celui-là, il est sur le chromosome 3, dans la partie, etc. Celui-ci, il est sur le chromosome 8. Bon. Si vous voyez que le problème dans cette famille est toujours hérité, systématiquement hérité, avec quelques chips qui sont dans une partie que vous connaissez du génome, vous savez que ce que vous recherchez est à proximité de ces variants. Parce que, j'en reviens la semaine passée, la probabilité de recombiner en méiose entre ce qui cause la maladie, ce qui cause le trait, et ces SNPs qui sont à côté sera très basse. Si vous avez un SNP qui est à un bout d'un chromosome, et puis ce qui induit votre trait est à l'autre côté du chromosome, eh bien ce SNP ne va pas être associé à votre trait, parce qu'il va partir, il sera recombiné. D'accord ? Donc avec ça, vous pouvez associer des SNP et avoir une idée de ce qu'on appelle un groupe de linkage, un linkage group en anglais, où on sait à peu près où va se trouver le gène, l'élément de régulation qui cause le trait que vous regardez. Alors ça vous permet évidemment d'avoir une approche quantitative, parce que peut-être que vous allez en trouver 8, 9, 10, 15 de ces loci. D'accord ? Parce que dans votre génome, si un trait particulier a un aspect morphologique est codé par 15 loci différents, eh bien vous allez trouver 15 concentrations de SNP qui vont être associées d'une façon ou d'une autre à ce trait. Donc ça vous permet d'avoir un ensemble de traits génomiques associés, non pas un seul gène, comme c'était le cas au début du mapping, de la cartographie des problèmes génétiques. Ça, c'est donc une approche quantitative. Alors, cette approche, vous pouvez la pousser au niveau des populations. Hein, vous avez une population de 8000 personnes. Là-dedans, vous en avez 3000 qui ont ce trait particulier, et puis 3000 qui vivent dans le même environnement, dans les mêmes familles, dans le même pays, dans la même ville, exposés aux mêmes conditions de pollution, etc., qui mangent la même chose, mais qui n'ont pas ce trait. D'accord ? Donc, vous allez dire, est-ce que je peux trouver des polymorphismes génomiques qui vont toujours être associés aux gens qui ont ce trait particulier ? Alors, la façon dont ça se fait aujourd'hui, en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle des SNP arrays, donc on a des petites plaques qui sont micro, hein, et puis dessus, on peut mettre toute une quantité invraisemblable de SNP dont on connaît la position sur le génome, et puis on va prendre l'ADN de ces 8000 personnes, et puis on va hybrider l'ADN en le marquant avec une fluorescence, peu importe, sur ces SNP. Quand l'ADN va être 100% homologue, il va rester, ça va fluorescer, il va y avoir de la... Quand c'est pas 100% homologue, ça va partir, vous ne le verrez pas. Donc vous avez des chips, vous les mettez dans un ordinateur, un logiciel, il va vous dire, voilà, il y a tel ou tel locus, et il va vous donner un pourcentage, parce que vous n'allez pas avoir 100% d'association. Hein ? Donc vous allez avoir des résultats qui vont s'exprimer en probabilité, en pourcentage. Et c'est ça qu'il faut vraiment, qui est important de comprendre, c'est que le résultat final, qu'on va définir comme étant un score LOD, un LOD score, c'est un résultat qui est en fait un logarithme d'un ratio de probabilité. Je vais revenir là-dessus dans une minute, ce sera la dernière chose compliquée, en fait. Alors, dans le cas de ces souris, évidemment, on voit qu'on peut faire en quelque sorte une sorte de mélange entre les deux, parce que ces souris, on a ces deux populations que vous avez sur la droite, sauf qu'elles sont presque consanguines. Et on peut les croiser. Si on pouvait croiser une population d'humains pendant trois générations, énormément de traits qu'on pourrait résoudre, en fait. C'est peu probable que ça se fasse, mais... Dans le cas des souris, on peut le faire. Alors ces souris, eh bien, vous les croisez pour obtenir ce qu'on appelle des F1. Alors F, en génétique, ça dérive de filiale. Ça veut dire que les parents sont F0, par définition, et puis F1, F2, F3, c'est les générations qui suivent. Donc, vous croisez des souris, dans ce cas-là, un mâle arboricole et une femelle prairie, peu importe, hein, peut-être l'inverse, et puis vous obtenez des souris F1. Alors, la première question, c'est ces souris F1, leur queue, elle ressemble à quoi? Ben, évidemment, elle est exactement intermédiaire. Ça, c'est de la génétique classique, tout le monde peut le deviner. Vous allez avoir sur la gauche ici la longueur en millimètres là, de la queue des souris prairies, ici la queue des souris arboricoles, et puis là, pile poil, les F1 qui vont vraiment avoir une... Alors, c'est pas étonnant, vous allez ramener un génome parental qui contient des allèles multiples pour une queue longue, un génome parental qui contient des marqueurs multiples pour une queue courte, vous allez avoir une queue intermédiaire. D'accord ? Alors le truc, c'est la génération suivante. Maintenant, vous allez prendre ces F1 et vous allez faire des intercross, donc vous allez les recroiser frères-sœurs. Alors quel est l'effet de ce croisement ? C'est qu'en méiose, donc dans la préparation des oocytes ou la préparation des spermatozoïdes, vous allez avoir des recombinants. Ça va recombiner. Les recombinaisons ne seront pas les mêmes. Elles vont être différentes dans chaque cellule qui va être produite. Chaque spermatozoïde, chaque ovule aura eu des recombinaisons différentes. C'est pour ça qu'on ne ressemble pas à 100% à nos frères ou à nos sœurs. Bien qu'on leur ressemble, d'accord, parce qu'on a recombiné. Et donc, les auteurs vont produire 495 animaux en F2, vous voyez en bas à droite, ici. Ça veut dire que sur ces 495 animaux, les génomes de la souris arboricole et de la souris berdie, donc prairie, vont être parfaitement recombinés. On va avoir des chromosomes qui seront en fait des petits morceaux qui viennent de l'un ou de l'autre. D'accord ? Alors, ces petits morceaux, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la longueur de la queue ? La prévision, c'est que comme on va avoir une distribution hasardeuse par recombinaison, eh bien, on devrait avoir une distribution de la longueur de queue qui se rapproche presque d'une gaussienne, en fait. Et ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez là la longueur des queues chez ces animaux F2. Ça veut dire que la moyenne à 80 mm, parce que la moyenne va obtenir des allèles queue longue, des allèles queue courte en quantité égale, mais vous allez avoir toute la distribution. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, en fait, qui n'est pas vraiment discuté, mais quand vous regardez la longueur des vertèbres, vous voyez qu'il y en a même ici qui sont plus longues ou plus courtes que dans les deux, souches de départ. D'accord ? Vous dites, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible, parce que la souris qui a la queue la plus longue dans le milieu arboricole, rien ne dit qu'elle ne pourrait pas avoir une queue encore plus longue si elle avait un variant additionnel qui se trouve dans la souris qui a une queue courte. C'est de la génétique quantitative. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de penser de cette façon. Et donc, de façon très, très minoritaire, quand on croise une souris qui a une queue longue, alors, une souris, attendez, quand on croise une souris dérivée, etc., en F2, on peut avoir des souris qui ont des queues légèrement plus longues, légèrement plus courtes que les queues de départ que vous voyez là, hein, ça c'est la queue de départ, longueur des vertèbres, ici longueur totale, et ici nombre. D'accord ? Regardez ici. Vous avez aussi des cas très, très mineurs où vous allez avoir plus de vertèbres que... etc. Voilà. Donc maintenant, vous avez cette population, 495 souris, et vous avez pour chacune de ces souris trois paramètres. La longueur totale de la queue, la longueur de la plus longue des vertèbres caudales, vous voyez ici, elle est, c'est celle-ci, et le nombre de vertèbres caudales. Alors pourquoi la longueur de la plus longue ? Parce que les auteurs ne vont pas s'amuser à mesurer toutes les vertèbres pour faire une etc. Donc ils vont prendre comme proxy, comme approximation, que la vertèbre la plus longue, ils vont systématiquement mesurer la même vertèbre dans toutes ces 495 souris, et ils vont prendre ça comme approximation de la longueur des vertèbres, ce qui est, à mon avis, relativement acceptable. Donc, on a ces 495 souris, on va mesurer pour chacune la longueur de la queue, pour chacune la longueur de la vertèbre la plus grande, et pour chacune le nombre de vertèbres. Et la première chose que vont faire ces auteurs, c'est de regarder si on peut trouver des corrélations entre ces trois paramètres. Et donc le premier qu'ils vont regarder, c'est celui que vous voyez en haut à droite, où vous avez la longueur, ici, vous avez la longueur de la vertèbre la plus longue de la queue, donc la longueur des vertèbres, et puis, la longueur totale de la queue. Et vous voyez que vous avez une droite qui monte, qui vous indique une bonne corrélation. Autrement dit, ça va étonner personne, mais quand les vertèbres sont plus longues, la queue est plus longue. C'est une corrélation qui est estimée de façon quantitative. Pareil ici, quand vous regardez le nombre de vertèbres et la longueur de la queue, ben là aussi, c'est pas étonnant, s'il y a plus de vertèbres, la queue sera plus longue. D'accord ? Par contre, vous voyez que sur le graphique du bas, il y a les variations ici, hein, sur le graphique du bas, vous avez maintenant le nombre de vertèbres avec la longueur de la vertèbre. Et là encore, c'est pas tellement étonnant qu'ils ne trouvent pas de corrélation, vous voyez que la corrélation est vraiment très très faible, pas significative, entre le nombre de vertèbres et leur longueur. C'est pas parce que vous avez des vertèbres plus longues que vous allez en avoir plus. Et c'est pas parce que vous avez plus de vertèbres qu'elles vont être plus longues. Donc vous avez deux facteurs qui corrèlent bien. Le troisième, c'était un peu attendu, hein, le troisième, mais ça, c'est maintenant vérifié, qui ne corrèle pas. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le benchmark. C'est les trois paramètres qui vont être regardés dans l'analyse quantitative. Et cette analyse, elle va être faite par ce qu'on appelle un QTL d'intervalle. Alors, de quoi s'agit-il ? QTL, c'est pour trait, locus à trait quantitatif. Hein, donc, en français, LTQ, probablement. Et c'est donc cette façon d'aller rechercher des loci génomiques qui ont un effet quantitatif. Alors pourquoi intervalle ? Parce que la méthode qui va être utilisée ici, c'est une méthode qui ne se base pas à associer, disons, ici j'ai quelque chose qui a à voir avec la longueur de la queue, hein, disons un élément génétique qui pour 20% participe à la longueur de la queue. On ne va pas chercher à identifier un polymorphisme ici qui va toujours être avec. Okay. On va chercher à identifier deux polymorphismes qui vont toujours migrer avec. Un intervalle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va se dire, d'abord, ce sont des souris qui sont relativement comparables. On connaît bien les génomes, ils sont similaires intra-écotypes, différents extra-écotypes. Donc, le nombre de variants va être peut-être pas aussi important que dans une population. Donc on va pouvoir définir il n'y aura pas énormément de crossover. Hein, on a discuté de ça la semaine passée, peut-être une vingtaine, une trentaine par méiose. Donc on va pouvoir définir des intervalles qui sont conservés, non pas des polymorphismes. Quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que quand vous avez un intervalle qui est conservé, vous pouvez aller regarder dedans, parce que vous savez que tout ce qui est dedans va être conservé. Donc, au lieu d'avoir un polymorphisme et puis de vous dire, ben, où je regarde où maintenant ? Je regarde à gauche, à droite, à quelle distance ? Là, vous avez un intervalle. Donc, vous pouvez directement aller dans l'intervalle. Donc, ça veut simplement dire qu'au lieu d'associer votre trait, dans ce cas particulier, une queue très longue, d'associer ça à un polymorphisme, on va avoir des couples de polymorphismes dans le génome. Okay ? Donc, ça va être défini comme couple de polymorphismes. Et on va rechercher des associations entre la longueur de la queue, la longueur des vertèbres et le nombre des vertèbres. D'accord ? Donc on a les mêmes outils génomiques, si vous voulez, mais on peut classer les différentes souris en des souris qui ont les queues pour une queue longue, pour une queue qui a des vertèbres longues, etc. D'accord ? Alors tout ça, ça va être formalisé par une mesure qui s'appelle le score LOD. Ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. C'est un rapport entre deux probabilités. C'est un rapport entre une probabilité qu'un endroit génomique soit associé au trait que vous cherchez et puis la probabilité qu'il ne le soit pas. Et vous faites le rapport entre ces deux probabilités et vous prenez ce rapport en log décimal. Et vous avez un score LOD. Quand vous avez un score LOD de 3, ça veut dire 10 puissance 3, 1000. Un score LOD de 3, ça veut dire que vous avez 1000 fois plus de probabilité que ce locus génomique soit associé à votre trait qu'il ne le soit pas. OK ? Si vous avez un score de LOD de 2, c'est considéré comme étant peu significatif. Un score LOD de 3, c'est considéré comme étant bien significatif. Un score LOD de 4, là, c'est vraiment une association qui est... Ça veut dire que là, vous êtes vraiment proche de... D'accord ? Donc, c'est un peu du jargon, si vous voulez. C'est du jargon d'un peu de jeu de probabilité, mais c'est ce que ça signifie. Hein. Je vous en parle parce que les LOCI que je vais vous montrer, ce sont des LOCI qui sont au-dessus de ce score LOD de 3. C'est comme ça que généralement les généticiens de population vont définir les locus qui sont intéressants. Voilà. Alors, ces collègues vont faire cette recherche. Et puis, ils vont aboutir à 6 loci génomiques, 6, qui ont un score. Alors, vous voyez ici comment on illustre ces résultats. Vous avez en bas des morceaux de chromosomes qui correspondent à un locus avec un LOD score qui est au-dessus de 4. Vous voyez ici le 4, d'accord ? Donc vous avez vraiment des LOD scores qui sont intéressants, et ses collègues vont en trouver 6. Alors ça veut dire, je vous rappelle une dernière fois, en haut c'est pour la longueur totale de la queue. Ce que vous voyez sur la droite en fait, ça veut dire qu'il y a 6 intervalles d'ADN dans le génome, 6 dans le génome de ces souris F2, 6 intervalles qui sont définis par 2 polymorphismes de part et d'autre, qui vont systématiquement migrer avec le trait que vous regardez, dans ce cas-là, queue longue, mais pas systématiquement, je dis systématiquement, qui vont migrer avec un certain pourcentage. Mais vous voyez que c'est très élevé. Ça veut dire que, par exemple, pour ce locus 14, ce chromosome 14, ici, j'ai de la peine avec ma souris, voilà, sur ce chromosome 14 ici, vous voyez que ça dépasse 4. Autrement dit, c'est un endroit qui a 10 000 fois plus de probabilité d'être associé à une queue longue que de ne pas l'être. Hein, 4, 10 puissance 4. Vous voyez la lecture de ce graphique. Et donc, ce que vous voyez en gris ici, ce sont les intervalles. Donc, en fait, pour arriver à cette conclusion, Par exemple, dans le cas du chromosome 8, il y avait un polymorphisme ici et un polymorphisme ici. Il y avait peut-être un T pour un G ou quelque chose à gauche et puis un C pour un A, quelque chose à droite. Et puis ils se sont aperçus qu'en fait, cet intervalle que vous voyez en gris, eh bien, il est toujours avec une queue longue. Pas toujours. Il est 10 000 fois, la probabilité qu'il soit avec une queue longue est 10 000 fois plus élevée que la probabilité qu'il ne le soit pas. D'accord ? Voilà, ça, c'est comme ça qu'on lit ce genre de choses. Alors, vous voyez que ces intervalles, ils ne sont pas les mêmes. Hein. Parfois, c'est des grands, parfois, ils sont... Alors, c'est tout de même des intervalles qui sont au-delà de la mégabase, de plusieurs mégabases. Hein, pour vous donner une idée, un gène, ça va être peut-être, je ne sais pas, 50 kilobases, une centaine de kilobases peut-être. Là, on est au-delà de la mégabase. Donc, dans chaque intervalle, on va trouver peut-être 5, 10, 15 gènes. Donc après, il faudra les rechercher, ce qui est... mais on sait au moins où c'est. D'accord ? Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils vont reprendre la même analyse, mais cette fois, ils ne vont pas utiliser la longueur de la queue comme paramètre, ils vont utiliser la plus longue des vertèbres. Eh bien, cette fois, il n'y a que 3 de ces QTL qui vont sortir, mais ce sont les mêmes. D'accord ? Donc, ça veut dire que la longueur des vertèbres est fixée en partie par 3 leucies génétiques, qui sont les mêmes 3 leucies génétiques qui vont fixer la longueur totale de la queue. Ce n'est pas étonnant, puisqu'on a vu qu'il y avait une corrélation entre les deux. Donc, ça vérifie cette corrélation, en fait. Et la dernière vérification, que je trouve très élégante, c'est que cette fois, quand vous regardez le nombre de vertèbres, bien vous tombez sur les 3 autres QTL. Et ça vous démontre en fait que l'absence de corrélation entre le nombre de vertèbres et leur longueur, ben il est réel, on le voit ici. En fait, les 3 endroits génétiques qui semblent jouer une grande partie du nombre total des vertèbres sont différents des 3 leucies génétiques qui semblent avoir une importance critique pour la longueur des vertèbres. À l'évidence, si vous dites qu'est-ce qui va faire la longueur totale de la queue, ben c'est les deux. Et comme par hasard, on retombe sur les 6 QTL cette fois. Donc vous voyez, c'est une expérience qui est, je pense, relativement bien contrôlée, qui est assez claire. Et donc maintenant, ben l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a dans ces intervalles ? Alors évidemment, en génétique quantitative, la première question qu'on va se poser, c'est une question quantitative, c'est de se dire, ces QTL, ils sont responsables de combien de variations de la queue ? Hein ? Ils vont nous expliquer combien du phénotype. D'accord ? On voit qu'ils sont impliqués, mais ils sont impliqués jusqu'à où ? C'est donc ce qui va être fait ici. Et vous voyez que si vous prenez ici les souris qui sont prairie, hétérozygote, prairie, forêt, et que vous regardez en fait la présence de ces QTL, vous allez voir que les animaux qui montrent les 3 QTL de type forêt-forêt pour le nombre de vertèbres caudales, donc les 3 animaux qui, en principe, ont ces QTL proches, ok ? Eh bien, ça n'explique que 43% de la variation totale. Alors, j'ai mis que 43%. En fait, c'est pas si mal. En génétique quantitative, on peut aussi arriver à 8, 9, 12 QTL qui vont expliquer 15% du phénotype. Donc là, on est dans une situation qui est quand même relativement confortable, où on a un pourcentage d'action de ces QTL qui est relativement élevé. Et vous voyez que quand vous avez des animaux qui ont les 3 allèles, ici, forêt-forêt, pour la longueur des vertèbres, eh bien, ils auront en moyenne des vertèbres qui seront plus longues de 32 mm, alors là on rentre vraiment dans les détails, hein, mais quand vous accumulez vos vertèbres, ça fait une différence. Et ces trois QTL vont expliquer 33% de la variation totale. Alors pourquoi je rentre dans ces détails? Parce que je pense que c'est vraiment, même si c'est parfois un peu difficile à comprendre, c'est vraiment très important de voir la différence de mindset, la différence de réflexion entre une génétique classique ou même une génétique de type monogénique et puis cette génétique quantitative qui est quand même difficile à comprendre, où on parle uniquement de probabilité et de pourcentage. Donc on a un certain nombre de leucies et ces certains nombres de leucies vont participer à des pourcentages différents à un pourcentage d'un trait morphologique, physiologique, métabolique, etc. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut vraiment toujours garder à l'esprit. Et c'est ça qui rend aujourd'hui la compréhension de maladies qui sont vraiment des vrais, les maladies qui sont les grands fléaux de la santé publique actuelle, qu'on n'arrive pas à déterminer avec des QTL, hein, ou avec des approches en GWAS. Je pense à l'autisme, je pense à la dépression, aux états maniaco-dépressifs, etc. Parce qu'en plus, alors, en plus de la complexité, c'est ce que je disais tout à l'heure, vient se rajouter des éléments épigénétiques qui rendent l'affaire extrêmement compliquée. La dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on peut aller chercher dans ces intervalles un gène, une séquence régulatrice qui serait responsable. Ces intervalles, ils vont faire plusieurs mégabases, ils vont contenir plusieurs gènes, ils vont contenir des centaines, voire des milliers d'éléments de régulation. Et là-dedans, il faut aller chercher quelle est la nature de l'association entre cet intervalle et le trait. Alors, les auteurs vont prendre ce qu'on pourrait appeler une approche par intersection, c'est-à-dire ils vont se dire, puisqu'on a maintenant défini ces intervalles, eh bien, on va voir si, par expression de gènes, on peut repêcher des gènes qui sont exprimés de façon un tout petit peu différente pendant le développement de la queue chez la forme arboricole, chez la forme de prairie, et de voir si par hasard, certains des gènes qui seraient en variation dans ces deux conditions tomberaient dans ces intervalles. D'accord ? Là, ce serait une bonne indication. Parce qu'évidemment, sur ces 15, 20, 30, 100 gènes que vous allez avoir dans un intervalle, la probabilité que vous en ayez un qui soit impliqué dans le développement de la queue, donc que vous trouviez de l'ARN dans le bourgeon de la queue, elle est relativement faible. Vous allez avoir toutes sortes de gènes. Donc, c'est une approche qui est valide. Et donc, ils vont faire ça, ils vont donc disséquer, vous voyez sur la gauche, des bourgeons de queue chez des foetus qui sont homozygotes, soit pour la forme forêt, donc, soit pour la forme prairie. Et puis, ils vont faire de l'ARN, comme tout à l'heure, de l'ARN global. Ils vont transformer cet ARN en ADN et puis ils vont comparer ces deux datasets pour voir s'il y a des gènes qui sont un tout petit peu plus forts dans l'un ou moins forts dans l'autre, etc. Et puis le résultat, vous l'avez sur la droite, où effectivement, ils vont trouver quelques gènes dont l'expression varie entre la forme arboricole et la forme prairie, et qui, alors, sont bien connus pour avoir des fonctions dans cette partie du corps, dans le bourgeon de la queue, etc. Notamment, un gène que vous voyez là, qui est le gène OXD13, et qui, dans la forme arboricole, est moins exprimé que dans la forme prairie. Donc, ce serait un gène dont la diminution de l'expression permettrait l'allongement. Voilà. Alors, là encore, comprenez-moi bien, quand je dis ça, je veux dire un gène dont un certain pourcentage de diminution d'expression conduirait à une certaine probabilité, un pourcentage d'allongement de la queue. Hein, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Alors, la question suivante, c'est est-ce que ce gène mappe dans un de ces intervalles? Et la réponse, évidemment, est oui, autrement, je ne vous en parlerai pas. Et donc, on verra la semaine prochaine comment on peut aller dans ce gène pour voir si, effectivement, c'est cet élément qui est responsable de l'allongement de la queue chez les souris arboricoles. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.